c'est pas évident, mais voilà, je trouvais que c'était un peu une manière d'imposer un schéma assez classique sur ces relations. Et notamment l'explication que vous donnez de cet entretien où ils font les calculs dans le moment de l'entretien et se rendent compte dans le moment de l'entretien que ça ne va pas du tout, ça va être difficile. J'ai du mal à croire quand même que c'est pendant l'entretien qu'ils se rendent compte de ça. Et je me demande souvent s'il n'y a pas une manière de jouer justement sur cette logique de victimisation qui pourrait se dire chez le du coup, je trouvais que la logique que dont parle Laurence Fontaine, ça vaut la peine peut-être de la voir ici aussi, c'est-à-dire que quand même, ces gens-là, on leur prête des grosses sommes, vous disiez, en 3 ans, ils vont passer de plus de 10 à 30 hectares. C'est bien qu'il y a des banquiers qui considèrent qu'ils ont, c'est pas seulement des victimes dominées, mais qu'ils ont un vrai pouvoir face à...
C'est bien ça lance ce débat, finalement.
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. La première, c'est que ce que je disais, c'est que vraiment c'était un moment économique particulièrement défavorable à la viticulture. Le moment pendant lequel j'ai fait l'enquête, et donc du coup, ce que je disais, les plantes de tulipes peuvent avoir des sens différents à d'autres moments économiques. Mais moi, j'étais vraiment à un moment où ça n'allait pas bien du tout. Sur le cas précis, là, c'est parce que j'ai été beaucoup trop vite, je voulais vous dire les mots, mais j'ai fait une espèce d'énorme raccourci. Où j'ai été trop vite, c'est que c'est ça qui est paradoxal, c'est que à la fois s'agrandir pour eux, c'est le signe d'une ascension sociale très très forte. Quoi. Il y a plein de connotations très positives pour eux à s'agrandir. Alors, en plus, il faudrait introduire les crues, mais il y a s'agrandir, c'était pas dans ce cas-là, c'était pas n'importe où, c'était des viticulteurs de fin bois qui avaient accès à la petite Champagne. Et qui avait acheté des vignes en petite Champagne, qui est un cru historiquement plus prestigieux que les fins bois. Et je dis historiquement parce que dans la situation économique actuelle, ça se vend moins bien. Mais eux, ça s'appuie sur les hiérarchies du passé pour valoriser cet achat. Donc en fait, derrière tout ça, il y a aussi. Il y a le fait que le fils reprend, il y a s'agrandir, donc j'aurais dû dire tout ça. Hein. Il y a quelque chose de. Il y a une présentation aussi très, très valorisée de ces achats et qui relativise du coup le poids des emprunts. Mais, ils le font ce pari de faire les emprunts. Et alors après, le fait que les banques leur prêtent, moi je trouve très intéressant quand vous avez dit les prêts sur gage en fait. Le risque, c'est les débiteurs qui les prennent. Je trouve que dans ces cas-là, c'est vraiment ça. Ils sont dans une situation économique. Tout à l'heure, on parlait de l'opposition entre crédit d'investissement et crédit de détresse. Et bien, en fait, dans ce cas-là, cette opposition, elle est foreuse, quoi. Et ils disent qu'ils sont pris. Voilà, maintenant on est lancé dans un truc, on est dans cette stratégie. Parce que là aussi, j'ai pas dit toutes les stratégies qui étaient possibles, il y en a d'autres. Mais c'est quand même la stratégie la plus générale pour un jeune instituteur pour s'installer, c'est celle de s'agrandir. Alors, bon voilà, donc ils font ce pari à un moment donné. Moi j'avais pas l'impression de les faire vraiment comme des victimes, mais bon.
Je voudrais intervenir parce que là aussi je reviens sur la notion de victime et même le propos que vous venez de tenir, finalement. Pour le prêteur, c'est une banque.
Vous devriez préciser de vous parler, c'est-à-dire vous présenter par rapport aussi.
D'accord, les autres n'ont pas fait, mais je le fais. Ouais,
J'ai essayé de faire
ma plusieurs fois. Là, j'ai fait ma carrière au Crédit Agricole. et par ailleurs, donc à l'heure actuelle, je suis doctorant à Lyon 2 en histoire contemporaine sur la caisse du Crédit Agricole de la Côte d'Or sur la période 30-70. J'ai jamais travaillé à la caisse de la Côte d'Or, ni d'ailleurs en Charente, bien que j'en ai entendu quand même parler. Ce que j'aurais retenu aussi sur un point, c'est sur la notion de dépendance. Véritablement, je pense que c'est une approche dans laquelle il faut porter une très très grande attention. Parce que, par exemple, vous venez de parler de la dépendance à l'égard de la propriété. Un contentieux pour une banque, ça coûte une fortune. La banque n'y gagne rien. Elle ne gagne rien. C'est-à-dire qu'elle va vendre la terre. Elle se paye sur la somme qu'elle a prêtée. Elle peut même avoir une perte. La preuve, c'est que dans certains cas, ça lui coûte de l'argent. Donc, cette notion de dépendance à l'égard du système bancaire me paraît un peu... l'agriculteur ou le viticulteur se sent en situation faible, je le conçois. Mais ce n'est pas une démarche qui est semblable à celle que vous évoquiez sur une mainmise, sur des biens. Financièrement, ça ne tient pas. Économiquement, ça ne tient pas. Voilà, hein, je précise bien ça. Que le viticulteur se sent dépendant, c'est très vraisemblable au moment qui est difficile. Alors l'autre point, il faudrait insister sur un certain nombre de points qui sont très techniques. Hein, le varant, c'est prendre en garantie des vins qui sont en stock. Hein, et la valorisation du vin est essentielle. C'est-à-dire que si vous valorisez au cours du jour ou au cours du jour de 5 ans avant ou de 5 ans après, vous n'avez pas du tout la même garantie. Et donc, c'est un élément qui est très très important. Hein. Alors là où vous avez, il me semble que sur les situations de dépendance, et vous avez raison de l'aborder par contre, c'est sur tout ce qui est revenu et notion de pérennité d'exploitation. Vous l'avez bien décrit, dans la relation de famille, on a des relations de dépendance. Dans la relation dans le couple, on s'aperçoit qu'effectivement, le banquier va regarder les revenus du conjoint et va dire, parce que s'il n'est pas emprunteur, il va être caution sans doute. Hein. Il faudrait regarder dans le cas que vous évoquez. Et donc, c'est la pérennité du revenu, parce que le reste va être entièrement englouti, vraisemblablement, dans l'exploitation. C'est-à-dire que le raisonnement n'est plus économique. Mais c'est assez différent. Si c'est un raisonnement, c'est pour augmenter l'exploitation. Et donc, c'est cet aspect-là qui est intéressant à décrire. Et sans doute le sentiment, parce que vous l'étiez, si les gens ont ce sentiment de dépendance que vous évoquez, ils ont un sentiment de dépendance, elle n'existe pas forcément tant que ça.
Vis-à-vis du système bancaire,
des négociants. Sur les négociants, j'en parlerai pas, je ne connais pas du tout.
Tout repose, en fait, ce type de crédit repose sur la stratégie commerciale des négociants. Et en fait, dans la période que moi j'ai travaillé, il y avait des gros trucs, quoi. Il y avait genre Martel qui a divisé en deux années de suite par deux, Martel qui était la deuxième maison de négoce qui a divisé par deux ses achats aux distributeurs. Donc il y avait des... c'est une enquête ethnographique sur ces
difficultés. Je reviens sur un autre point, c'est qu'il faut, surtout sur cette situation-là, il faudrait se situer à un moment où le marché est euphorique. Je pense au champagne. Vous avez eu des périodes où tout le monde avait sa Mercedes et sa piscine, et des moments où on vendait la Mercedes et la piscine. Et croyez-moi, c'est les mêmes personnes que vous avez retrouvées, à peu près. Et donc, il faut faire cette approche sur les deux périodes.
Mais elle a commencé avec ça.
Comment ?
Elle a commencé en expliquant que c'était la clé du truc.
Mais c'est tout à fait essentiel. Donc, en fait, il faudrait recommencer. Une deuxième thèse de HDR. Et si la formation, vous citez dans vos documents, vous ne l'avez pas abordé là, vous dites que vous avez assisté à une formation et vous situez le climat. Hein. Il y a une pression qui est faite par les formateurs qui appartiennent à des organisations professionnelles agricoles où on leur dit, est-ce que vous avez pensé à ceci, est-ce que vous avez pensé à cela. Et effectivement, tel que vous le décrivez, je me suis dit, c'est un peu infantilisant. Mais l'exemple que vous donnez de ce fils qui s'arrache les cheveux en découvrant que soudain ils sont extrêmement embêté, montre que la démarche n'est pas si absurde que ça dans un monde qui résonne différemment, hein, sur la pérennité, sur le goût du maintien d'entreprise telle qu'elle est, au-delà même d'un raisonnement économique. Voilà. Et vous m'excuserez pour l'impression.
C'est intéressant. J'avais posé la question du crédit agricole. En fait. J'entends ça, c'est intéressant parce que moi, c'est pas du crédit agricole. Moi, j'en fais l'excès. On me dit crédit agricole, je pense politique productiviste, je pense restructuration de l'agriculture, je pense grosse, au moins au milieu du discours, hein, depuis quand même les années 45-50, une très forte pression vers une agriculture restructurée autour de producteurs moins nombreux et plus efficaces. Ça, c'est quand même ce que j'ai toujours entendu. Et avec un résultat réel, concret, mesurable, qui est le passage à 7 donc, si vous voulez, d'un côté, je vois bien comment, dans l'intérieur de la structure de crédit agricole, ça peut ne pas ressembler à ça. D'un autre côté, quand même, j'ai envie de dire, il y a, au fond de payant extérieur, il y a quand même eu, il m'a semblé, une politique délibérée et très organisée par la formation agricole, par la FNSEA, par le ministère de l'Agriculture, par même une politique peut-être de l'agricole, j'en sais rien, je n'ose pas trop m'avancer dans les sphères, mais de restructuration. Et le passage de 9 à 30 hectares, ça c'est de la structuration.
En fait, quand vous traitez, vous êtes dans un contexte, et en réalité, le débat que vous posez, c'est le débat de l'agriculture telle qu'elle a évolué en France. Des années 50 aux années 90, mais qui est une politique générale voulue, partagée par les syndicats agricoles les plus importants, les plus importants, clairement, et qui a été décidée, j'allais dire même en dehors de la banque, la banque résonne sur une structure purement financière. Et donc elle dit, moi, ça c'est rentable, ça c'est pas rentable, je prête pas, et en plus j'ai des règles qui me sont imposées, c'est-à-dire que là c'est bonifié, s'il y a un minimum de surface, c'est bonifié, voilà. S'il n'y a pas ce minimum, c'est pas bonifié. Hein, en contrepartie, il faut de la formation. Enfin, voilà. Mais ça, on ne va pas revenir. On sort du sujet, je
pense. Non, je ne crois pas, parce que l'intervention de l'État dans le droit de la modification change tout quant à la stratégie de la banque. Aux États-Unis, pourquoi il y a des maisons individuelles? Parce que les organismes prêteurs immobiliers ne peuvent prêter garantie que sur des maisons individuelles. Le prêt sur l'appartement contaminé n'est pas possible. Bon, donc, ils font des maisons individuelles, c'est normal. Si le prêt bonifié privilégie des surfaces plus importantes, il n'est pas tellement étonnant de voir l'agriculture s'orienter vers des surfaces plus importantes.
Mais si vous voulez, c'est un débat.
C'est l'agriculture à la maison individuelle.